Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent ici, un peu intimidé, en même temps très intimidé même, il faut bien vous le dire. Je ne vous aurais pas dit ça l'année dernière lorsque le programme était inconnu. Au mi-temps de l'été, j'aurais également pu imaginer vous surprendre, n'était votre force de travail légendaire. Là, le mal est fait, j'arrive après la bataille, je suis cuit. Les passions n'ont plus rien de, vous êtes n'ont plus rien de, d'étranger à votre personne. Vous êtes beaucoup plus au fait que moi du détail et des enjeux des œuvres au programme. Et puis je ne me sens absolument pas capable de tenir ensemble évidemment les trois œuvres en question. Aussi dois-je implorer votre clémence. Alors je vais faire comme si de rien n'était et essayer de simplifier le plus possible les choses à propos de la seule cousine bête, en vous présentant des éléments, si possible, exploitables, comestibles. Voilà, telle a été mon obsession de tous les instants quand j'ai préparé cette petite présentation. Difficile, me direz-vous, de faire autrement. L'idée de clôture textuelle est un leurre, comme vous le savez, et les textes se débattent dans des questions qui les excèdent. Encore faut-il, lorsque l'on en parle, que ça se voit. Et c'est à vous qu'il revient ensuite, ou à vos élèves plus précisément, de faire communiquer les trois œuvres, et c'est là le plus délicat, je crois qu'il en sera question cet après-midi. Faut-il préciser avant toute chose, au chapitre des rapports constitutivement entretenus par la cousine bête avec son dehors, que notre roman feuilleton, donc publié comme tel en 1846, veut concurrencer, c'est un des enjeux sur lesquels je ne m'arrêterai pas, sur le terrain médiatique des auteurs comme Alexandre Dumas, Frédéric Soulier ou Eugène Sue, avec les grosses ficelles qui sont les leurs, et que d'autre part, publié qu'il a été en 1847 en volume, eh bien, ce roman reste la partie d'un grand tout intitulé « La comédie humaine » et que entre lui, la cousine bête, et elle, la comédie humaine, il existe toute une série d'unités intermédiaires, bon, vous le savez, au sein desquelles unités chaque récit entre en résonance. On peut penser ici aux parents pauvres. Le cousin Ponce et la cousine bête constituant un diptyque, et on peut également penser aux scènes de la vie parisienne. Autre unité intermédiaire, je ne crois pas nécessaire d'en dire davantage sur cette question, tant elle nous éloigne au fond des autres œuvres au programme, et tant également ces regroupements peuvent avoir, dans une certaine mesure, un caractère arbitraire. Évidemment, j'en viendrai tout à l'heure, de temps en temps, à dire leur caractère éclairant. Puisque j'en suis aux questions en introduction d'outillage livresque, et comme je sais que vous avez un temps infini à consacrer au travail des œuvres au programme, quelques instruments de travail qui peuvent avoir leur utilité, peut-être pour les moins balzaciens d'entre vous. D'abord, deux sommes particulièrement stimulantes. La première, sans doute la plus utile pour ce qui nous concerne, c'est le travail magistral de Pierre Barbéris qui s'appelle « Balzac et le mal du siècle », qu'on ne saurait trop recommander, republié en 2002 chez Champion. Et puis l'autre somme qui s'impose en la matière, c'est la somme de Maurice Bardèche, « Balzac romancier », republié en 1967 chez Slatkin. Et puis trois outils stricto sensu. D'abord l'index des personnages réels et des personnages fictifs que vous trouverez dans le tome 12 de l'édition Pléiade. D'autre part, la table de concordance, donc qui permet de faire des recherches lexicales sur toute la comédie humaine, que vous trouverez en ligne sur le site de la maison de Balzac. Des recherches lexicales dans toute la comédie humaine telles que paginées et éditées dans la Pléiade. Et enfin, deux sites internet. Le premier, Balzac à l'étude pour son moteur de recherche qui permet de naviguer dans la littérature critique pour savoir qu'est-ce qui a été écrit sur quoi et quand à propos de la comédie humaine. Et puis le deuxième, le site du groupe international de recherche balzacienne qui offre un accès depuis 15 jours très large, gratuit à les travaux les plus récents publiés sur l'auteur de la comédie humaine aux éditions Christian Pirot. Alors je vais commencer par extraire du roman, d'une façon un peu stratégique, une thématique centrale, c'est-à-dire une façon prévalente d'envisager la représentation des passions dans l'œuvre. Et puisque le regard adopté sur les passions est essentiellement et d'abord d'ordre clinique, je parlerai donc en premier lieu d'une physiologie des passions, d'une façon, vous allez voir, très descriptive et le plus rapide possible. Car c'est là une thématique centrale et d'une part centrale dans la comédie humaine au sens chronologique du terme, cette comédie humaine d'où sort la cousine bête. S'il fallait proposer un panorama très rapide, on pourrait constater que au chapitre des moteurs de l'action, la comédie humaine explore trois domaines, trois concepts successifs. Le premier, c'est celui de croyance. Par exemple, dans les scènes de la vie privée de 1830, ce sont les croyances imputables à des a priori religieux ou imputables à des legs familiaux qui orientent les comportements. La deuxième notion, et c'est celle qu'exploite au tout premier chef la cousine bête, c'est une notion élaborée par Balzac essentiellement autour des années 1833-1834, c'est la notion d'idée fixe, de monomanie, que l'on trouve surexposée par exemple dans Le Père Goriot, dans Eugénie Grandet, dans La recherche de l'absolu, et avant cela dans Le chef-d'œuvre inconnu par exemple. Une idée selon laquelle, trempés que nous sommes dans des monomanies absolument inoxydables, eh bien nous nous tuons à petit feu à force de courir après ces passions vampirisantes. Et puis le troisième facteur psychologique que Balzac imagine à l'œuvre aux origines de nos comportements et de nos actions, c'est, me semble-t-il, le principe d'intérêt, qui peut revêtir une dimension calculatoire et délirante tout aussi bien dans la comédie humaine, le principe d'intérêt qui nous rabaisse moralement mais en même temps qui nous fait réussir socialement. Alors il me semble que la cousine bête occupe dans cette affaire une place médiane et qu'elle redistribue, on le verra, les cartes. Et s'il fallait très rapidement dire à quel point cette thématique est centrale et en proposer une archéologie intellectuelle, il faudrait évidemment rappeler qu'elle l'est d'autre part centrale dans l'histoire du matérialisme philosophique dans laquelle s'inscrit l'auteur de la comédie humaine, la cousine bête témoignant d'une sorte de flirt très poussé avec le courant scientiste hérité des idéologues du XVIIIe siècle qui se refusent à séparer l'âme et le corps. L'auteur de La Cousine Bête est un lecteur de Destutt de Tracy, c'est un lecteur de Cabanis, c'est un lecteur de Bichat, comme en témoignent de très nombreux textes philosophiques un peu méconnus que vous pourrez trouver dans le tome 2 des œuvres diverses dans la Pléiade, tous ces essais de jeunesse où Balzac n'arrive pas à concevoir et à accepter d'ailleurs le dualisme cartésien de l'âme et du corps. Et le terme clé que Balzac, après d'autres, et notamment après Spinoza, qu'il a tenté de traduire, à l'époque où Spinoza sentait le soufre, le terme clé que Balzac oppose à Descartes en la matière, c'est le terme de substance, c'est-à-dire la consubstantialité de la matière et du sens. Bon, vous pourrez vous reporter, par exemple, aux notes que Balzac avait destinées à son discours sur l'immortalité de l'âme, à son commentaire de Malebranche, ou bien à son commentaire du baron d'Holbach. Dans La Cousine Bête, maintenant, comment se manifeste cette physiologie des passions d'obédience matérialiste? Alors, les réponses sont nombreuses à cette question. J'énumère trois matériaux, trois ingrédients très rapidement. D'abord, cette physiologie se manifeste dans l'esthétique du portrait, dont d'ailleurs Tiphaine Carcentier a dit quelques mots. Une esthétique du portrait qui, ce faisant, devient légitime en littérature. La jeune Hortense, par exemple, elle est trahie par le feu de son regard, page 166. Le baron Hulot, eh bien, page 246, on voit, citation, par certaines meurtrissures et dans le sillon tendu de la ride, les efforts d'une passion en rébellion avec la nature. Ou bien la physionomie de la cousine bête, vous vous en souvenez, page 183, est ravagée par une éruption volcanique, par une sorte donc de coalescence ou de consubstantialité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est le principe d'expressivité qui favorise cette surexploitation du portrait romanesque. Par parenthèse, vous pourrez vous reporter à une petite nouvelle de 1830 intitulée « Adieu », où cette secousse terrible qu'éprouve, page 549, la cousine bête, fait mourir le personnage de la nouvelle. C'est un personnage qui meurt d'une secousse électrique au moment où elle se souvient, peut-être que vous en souvenez si vous l'avez lu, au moment où elle se souvenait du traumatisme premier qui l'a accablé sur la Bérésina à l'époque du Premier Empire. D'autre part, deuxième manifestation, un imaginaire de la maladie. Non seulement l'homme est réduit dans La Cousine Bête à une mécanique purement corporelle, je citerai la page 440, « Vous n'étiez plus un homme, mais un tempérament. » Mais de plus, les personnages se trouvent accablés par des passions qui les meurtrissent. Les gens passionnés sont sourds comme ils sont aveugles, écrit Balzac, page 503. Surdité et aveuglement que le lecteur ne partage pas et qui se situe à cet égard dans la lucidité qui est la sienne aux antipodes des personnages passionnés. Les personnages, disais-je, portent en eux, c'est une citation de la page 95, un germe de peste, ou bien page 391, une forme de choléra. Vous aurez reconnu dans ces motifs de la maladie une origine littéraire à La Cousine Bête, interne à la comédie humaine, c'est La Peau de Chagrin, publiée en 1831, 16 ans avant notre volume. Le modèle du baron Hulot, c'est Raphaël de Valentin, qui est dévasté, lui, également, lui d'abord, par sa libido. Vouloir nous brûle. Vouloir nous brûle, écrit Balzac dans La Peau de Chagrin. C'est, écrit-il, la libido. Autre citation de 1830, le grand dissolvant de l'espèce humaine. C'est-à-dire, dans notre roman, le grand dissolvant de l'organisme individuel et de la vie sociale. Et la question se pose de savoir pourquoi cette détérioration-là, ne suscite pas forcément de la part du lecteur une forme de sympathie, au sens où nous pourrions compatir avec elle. Et la question se pose de savoir pourquoi elle ne suscite pas non plus d'empathie, au sens où nous n'éprouvons pas manifestement les sentiments des personnages représentés. Je reparlerai tout à l'heure de cette question de la chaîne des émotions qui permet paradoxalement au lecteur de prendre ses distances par rapport aux passions représentées. Je vous renvoie, c'est une curiosité, à une ébauche de 1837 sur cette question de la libido comme opération de décapage. Une ébauche intitulée « Les martyrs ignorés » que je cite « La pensée est plus puissante que ne l'est le corps, elle le mange, elle l'absorbe et le détruit. » Vous le savez cela. La pensée est le plus violent de tous les agents de destruction, cette méfiance à l'égard de l'intelligence que Balzac doit à sa lecture de Rousseau, par exemple. Elle est le véritable ange exterminateur de l'humanité, qu'elle tue et vivifie, car elle vivifie et tue. Véritable, écrit Balzac, force homicide. La plupart des individus qui ont dépassé 100 ans s'étaient livrés à des travaux manuels et pensaient peu. Savez-vous ce que j'entends par penser ? Les passions, les vices, les occupations extrêmes, les douleurs, les plaisirs sont des torrents de pensée. Voilà cet imaginaire du fluide que Balzac doit à sa fréquentation des idéologues du XVIIIe siècle. Enfin, troisième manifestation que j'évoque rapidement, c'est l'intertexte tragique, que vous connaissez pour avoir en tête l'œuvre en question. Le roman est comparé, page 236, à une tragédie classique, et il présente essentiellement en Adeline un personnage très proche d'Andromaque. Son mari s'appelle Hector, je vous le rappelle. Elle est absolument obsédée par le destin de son fils, Adeline. Et elle partage avec l'héroïne de Racine le fait d'être une figure aussi intransigeante que prête à tous les sacrifices. Plusieurs références sont faites à Phèdre, page 335 par exemple, ou bien page 455 que je cite. « Eh bien, j'aime cela !» s'écria Josépha, qui se leva plein d'enthousiasme. « C'est un brûlage général, c'est sardanapale, c'est grand, c'est complet. » Elle se posa tragiquement et dit « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. » Et voilà, ajouta-t-elle en pirouettant. Un brûlage général. Voilà qui justifie l'extraction thématique à laquelle j'ai procédé rapidement dans cette première partie, en me montrant encore indifférent au système des personnages, qui va compliquer évidemment la donne en termes narratifs. Pour faire entendre le texte de Balzac au chapitre de cet intertexte tragique, j'évoquerai rapidement deux pages importantes. L'une, page 367, où Hulot met sur le même plan les ravages du vice et de la vertu. La passion naïve et fraîche, comme celle que tu as pour Venceslas, ne calcule malheureusement rien. Elle est toute à ses premiers mouvements. Notre petit cœur part, la tête suit, on brûlerait Paris pour se venger, sans penser à la cour d'assises. Et puis l'autre, la page 533, qui propose un éloge de cette servitude absolument viscérale, de cette impulsivité débridée, et qui donc en joue de la façon suivante. Alors c'est cette fois l'adjectif général qui va revenir et qui caractérise de fait l'ensemble des personnages de notre roman. « Mon fils, dit la nourrisson en se levant et allant se poser en face du Brésilien abattu, je suis de ta religion. Quand on aime, d'une certaine façon, qu'on s'est agrafé à mort, en italique. La vie répond de l'amour. Celui qui s'en va arrache tout, quoi. C'est une démolition générale. Tu as mon estime, mon admiration, mon consentement, surtout pour ton procédé qui va me rendre négrophile, écrit Balzac. Il me semble que cette énergétique, elle témoigne d'une forme consommée de romantisme, sur laquelle, forme consommée, je m'arrête quelques instants pour achever cette première partie, ou cette première récapitulation relative à l'œuvre. Une forme consommée de romantisme qui tient en un diagnostic important de la page 503, « On ne raisonne pas les passions ». Cette nature débordante et ravageuse des passions, frénétique, selon l'expression de Bette, page 211, touchant au paroxysme, page 338, vous savez que cette nature-là, le romantisme l'avait voulu rétive à la rationalisation, et que d'autre part, le romantisme l'avait voulu restreinte à certains êtres d'exception. Préface, par exemple, de Lucien Leven, première préface, l'auteur pense que, excepté pour la passion du héros, le roman doit être un miroir, excepté pour la passion du héros. Or, dans notre roman, et c'est pourquoi je parle de forme consommée, rien ne reste insondable, d'une part, il existe une logique des passions, citation de la page 197, que reformule autrement Balzac, page 456, qui a bu, boira, et d'autre part, rien de très original dans les emportements qui prennent les personnages, rien de très glorieux dans la libération généralisée des libidos. L'excès fait désormais force de loi, comme ce sera le cas dans les Rougon-Macquart de Zola, par exemple. Et c'est cette intensité généralisée dont j'ai rappelé qu'elle passait par certaines images, l'image de l'agrafe, on s'est agrafé à mort. Il est d'autres images, non moins éloquentes, que j'évoque rapidement. Ce serait dommage de ne pas faire entendre suffisamment le roman de Balzac. Page 521, cette même intensité, ce même amour fait qu'on s'enfonce, qu'on enfonce père et mère, qu'on vend femmes et enfants. Page 522, l'amour vrai s'empare d'un homme comme l'eau s'empare du sucre. Il annule un homme, écrit Balzac. Ou bien page 527, les Brésiliens, le Brésilien c'est l'autre grand sauvage de l'œuvre avec la cousine bête, les Brésiliens sont tenus, citation étonnante, pour des crânes qui tiennent à s'empaler par le cœur. C'est affreux, et ça fait très mal, je pense. Des crânes qui tiennent à s'en parler par le cœur. Voilà donc des extrémités, pour reprendre le titre du chapitre 42, puisque notre édition a, contre les dernières volontés de Balzac, gardé les titres de chapitre. Voilà donc les extrémités qui justifient que justifie le matérialisme balzacien. Et c'est ainsi que, il me semble, on peut conclure ce premier ensemble de remarques. C'est cette façon de faire tenir ensemble, dans une même physiologie des passions, un matérialisme foncier et le spectacle de la démesure. Spectacle donc de la démesure, j'en viens à un deuxième temps de ma présentation que j'intitulerai « La passion réfléchie, la passion manœuvrée ». La passion réfléchie, la passion manœuvrée. En effet, certains dispositifs permettent de creuser dans l'œuvre, au sein de l'intrigue, une sorte d'espace qui va transformer la passion en objet. Et un espace qui va assigner à la passion une fonction romanesque. Un peu de la même façon que Illusion perdue se construit en mettant la littérature en débat, en faisant jouer la littérature et ses formes, le théâtre, la poésie, en représentant la littérature, en l'enveloppant. Eh bien, la cousine bête se construit dans cette façon qu'elle a d'envelopper la passion et ses tares. L'autre jour, au colloque de l'École normale supérieure portant sur la cousine bête, j'ai entendu un critique balzacien, Thomas Conrad, qui distinguait deux modes de décomposition de la passion. L'une interne à chaque personnage, et il est vrai que leur complexion psychologique n'a rien d'évident, et l'autre mode de décomposition qui joue sur la confrontation entre les personnages. Et c'est à ce deuxième niveau, c'est sur ce deuxième niveau que je m'arrêterai davantage. Éventuellement, nous pourrons discuter du premier dans le cadre de la discussion. Le plus rapidement possible, je me propose d'abord d'exposer la carte narrative, le schéma actantiel, disons, l'engrenage des passions qui se trouve incarné dans l'œuvre, qui se trouve activé dans l'œuvre, qui se trouve contrarié dans l'œuvre, etc. C'est, conformément au terme de la page 227-228, un dédale pour le lecteur et un guépier pour les personnages dont Balzac lui-même propose, vous vous en souvenez parfois, en fin de chapitre, certaines vues panoramiques, enfin des vues locales, puisque situées en fin de chapitre, par exemple à la fin de chapitre 12, 18, 24 ou 45. Et à force de lire et de relire ce roman, on tient souvent pour évident le schéma actantiel, de telle sorte que les élèves et les étudiants s'en désintéressent le plus souvent. Et c'est bien dommage, car ce sont ces affaires de composition narrative qui vont mettre à distance la physiologie des passions. Donc je vais schématiser rapidement. Notre roman, qui est un roman réticulaire, noue deux fils narratifs. L'un concerne au premier chef le personnage éponyme, la cousine bête, toute de haine et de fiel, page 218. Je vous renvoie, pour ce qui concerne les origines et les formes assez complexes de cette haine, de ce désir de vengeance, au chapitre 8 et 28, qui est une vengeance bien moins glorieuse que celle de Monte Cristo, et l'autre ligne qui organise le récit, elle concerne le baron Hulot, qui est travaillé, lui, par un vice et une dissipation également inoxydable. Deux formes, donc, très différente de, alors j'ai cherché un mot qui permette de, disons, de convoitise. Très différent du principe de plaisir ou de la recherche de l'agréable dont il était question il y a quelques instants. Deux formes de convoitise qui donnent lieu à des manœuvres très sophistiquées et qui engagent donc la rationalité des personnages, leur calcul, disons. Deux matrices de l'intrigue qui se confortent l'une l'autre, puisque c'est l'articulation majeure, la libido de l'un, à savoir celle du baron, sert la libido de l'autre, à savoir le désir de vengeance de la cousine bête. Comment ? Eh bien, par le truchement de l'humiliation que Bette attend des comportements du baron. Et c'est cette subordination d'une libido à l'autre qui justifie le titre du roman. Alors, si on observe les choses de façon un peu lointaine, on constate que Balzac a ensuite besoin, pour dramatiser et pour dynamiser le récit, du truchement de deux autres éléments, de deux autres passions, de deux autres personnages. L'outil de dramatisation, c'est la vertueuse Adeline, page 61, la sublime Adeline Hulot, page 451, qui est à la fois la victime des infidélités de son mari et des désirs de vengeance de la cousine bête. Et le moteur qui va dynamiser l'intrigue, c'est notre amie Valérie Marneff, Le serpent fait femme, page 335, ce Machiavel en jupon, page 240, qui incarne donc le piquant du vice. C'est une autre citation. Valérie est donc, avec Adeline, le deuxième trait d'union entre les deux personnages centraux de notre schéma. Un trait d'union qui apparaît au chapitre 4 et qui va autoriser, on va le voir, une représentation de la passion, tranchant largement avec ce que j'ai pu en suggérer tout à l'heure. Elle a un peu, Valérie, la fonction que Vautrin rêve d'assigner à Lucien ou à Rastignac, c'est-à-dire qu'elle va précipiter le roman dans la luxure. C'est aussi le schéma narratif adopté dans un très beau roman qui s'appelle Le Cabinet des Antiques, où Ducroisier précipite d'Esgrignon dans la luxure parisienne pour ternir l'image de marque de sa famille. Vous voyez, le schéma est exactement le même, avec quelques variations intéressantes. De là, ce que Balzac appelle la toile d'araignée, page 265, que vous savez, une partie d'échec, qui va accorder une importance secondaire à deux autres, ça fera six, à deux autres personnages, deux autres acteurs, qui vont se marier au cours du roman. Vous aurez reconnu, d'une part, le libertin Crevel, qui partage avec la cousine bête une passion et qui partage avec le baron une autre passion. La passion que Crevel partage avec la cousine bête, c'est le désir de vengeance. Et la passion que Crevel partage avec la cousine bête, avec le baron, pardon, eh bien, c'est sa libido débridée. Crevel sera utilisé comme une sorte de combustible par Balzac pour exciter les désirs des personnages une fois que l'intrigue se sera déportée du côté de Valérie et chez Valérie. Je cite, page 247, « Valérie, protégée par ses deux passions en sentinelle à ses côtés et par un mari jaloux, attirait tous les regards, excitait tous les désirs dans le cercle où elle rayonnait. » Donc c'est un trait d'union qui devient le centre névralgique de l'intrigue. Et d'autre part, la fille Hulot, Hortense, qui n'est pas simplement le double de sa mère, en termes de représentation de la passion, elle incarne la passion égorgée, c'est vrai, page 356, mais c'est surtout elle qui va cristalliser et redoubler les ressentiments de Bette et de Valérie grâce à l'homme dont elle s'est entichée, ou à cause de l'homme dont elle s'est entichée. Donc ça fait sept personnages, à savoir le sculpteur Steinbock. Voilà comment on peut tenter de hiérarchiser d'abord les choses avant que le dénouement ne vienne redistribuer les cartes. Ce dénouement, j'en reparlerai tout à l'heure dans un troisième temps. Voilà comment on peut tenter de ressaisir les nœuds d'une intrigue un peu dissipée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que le cousin Ponce, lui, se crispe de façon centrifuge sur la collection et elle seule qui constitue l'objet du délit. Alors j'ai dit en un mot à quel point c'est Valérie qui occupait la position cardinale de notre intrigue. C'est elle qui va faire jouer la représentation de la passion au double sens du terme « jouer ». D'une part, elle va les mettre en scène, et d'autre part, elle va retirer à ses passions la gravité qu'on pouvait leur prêter, ou qu'on pouvait en attendre. C'est elle, donc je résume, qui, me semble-t-il, confère un caractère un peu folklorique, amusant, étrange en tout cas. C'est elle qui confère à la passion une forme d'étrangeté, qui était jusqu'alors absente des grands romans balzaciens de la monomanie. C'est elle qui rend la passion grotesque, ou burlesque si on veut. On pourra discuter éventuellement de ces étiquettes, au sens par exemple où le grotesque pourrait bien procéder d'une distorsion, d'une doublure du pathétique. Pourquoi ? Eh bien, pour trois raisons. D'abord, les conquêtes successives que fait Valérie retirent à chaque proie sa singularité d'être souffrant. Je cite, « Grâce à cette stratégie basée sur l'amour-propre de l'homme à l'état d'amant, Valérie eut à sa table, tous joyeux, animés, charmés, quatre hommes se croyant adorés et que Marneffe nomma plaisamment à Lisbeth, en s'y comprenant les cinq pères de l'Église. » Page 359. Donc cette multiplication, cette mise en série, qui n'est peut-être pas d'ailleurs étrangère à l'esthétique du roman feuilleton, cette sérialité retire à chacun des pères de l'Église la singularité qu'on pouvait en attendre. D'autre part, les scènes de comédie qu'elle joue, de haute comédie féminine, l'expression revient trois fois dans les titres de chapitre, sont des opérateurs qui démystifient la passion. Et en vertu de cette théâtralisation et des ficelles un peu mélodramatiques qu'emprunte le roman, Valérie va rendre outrancier ce qui n'était qu'exacerbé, si l'on peut dire. Et il me semble que c'est cette outrance qui interdit l'empathie ou la sympathie. C'est elle qui empêche le lecteur d'éprouver des passions, parce que la question doit se poser, qui seraient celles des personnages. Voilà, notre programme ou votre programme est une belle porte d'entrée pour réfléchir à cette question peut-être théorique et peut-être pas du tout théorique, peut-être purement statistique, du rapport entre les passions des lecteurs et les passions des personnages. Sur cette question, je vous renvoie un bel ouvrage collectif assez récent qui s'appelle « Empathie et esthétique », publié sous la direction d'Alexandre Geffen et Bernard Vouilloux, chez Hermann, et notamment au très bel article de Françoise Lavocat, qui part de ce paradoxe selon lequel le mot de passion ne suffit pas à passionner un lecteur. Donc elle fait le tour des différentes théories explicatives permettant de comprendre ce qui suscite ou pas l'immersion du lecteur. Alors l'outrance n'est assurément pas un opérateur d'immersion, bien au contraire. Tout au plus est-elle un opérateur d'amusement. En un sens, Valérie a le statut de la peau de chagrin, à savoir que c'est elle qui libère et qui exacerbe, comme la peau de chagrin, comme l'objet peau de chagrin, la libido viciée des personnages masculins et féminins d'ailleurs, on va voir. Et c'est elle qui, comme la peau de chagrin, va constituer une interface entre la libido des personnages et l'offre sociale qui excite le désir. Par parenthèse, si on observe l'autre volet de l'intrigue, c'est-à-dire le côté cousine bête, Valérie révèle une sacrée étrangeté en matière de représentation des passions, à savoir la question qui taraude sans doute vos élèves, à savoir la question des amours homosexuels. Elle est là, le cheval de Troie, d'une réflexion à peine ébauchée sur ce que Balzac appelle, page 552, le sentiment le plus violent que l'on connaisse, l'amitié d'une femme pour une femme. Bon, pour ne pas trop traîner, je ne cite pas ce qui était prévu, je vous laisse vous reporter à la longue citation de la page 248, au chapitre de cette étrangeté-là, qui doit être mise en rapport avec la relation intime qui lie le cousin Ponce et le personnage de Schmuck dans le roman lui-même jumeau que vous savez. Alors la stratégie majeure utilisée par Balzac pour constituer la passion en objet grotesque, et c'est cette stratégie dont Valérie est le nom, c'est la duplication. Je mets un mot sur ce qui constitue pour vous une évidence. Ce que notre roman appelle, page 332, la réplique. Souvenez quand Valérie est tenue pour une réplique de la statue de Dalila. Alors la stratégie de la duplication, elle opère à trois niveaux, me semble-t-il. D'abord, elle se manifeste par le biais d'effets citationnels. Très lisibles. Bon, les références littéraires sont excessivement nombreuses. Et elle dédramatise, c'est leur fonction essentielle, les situations vécues par les personnages. Nicole Moset, dans un petit ouvrage dans la collection Lectoguide en 1980, a fait une liste de ces différentes références littéraires, Molière, Rousseau, La Fontaine, qui ne sont sans doute pas choisies complètement au hasard. Je ne détaille pas. Deuxièmement, cette stratégie opère grâce à la reprise de certaines scènes exaltant la vertu, mais qui, une fois reprises, paraissent dégradées. Je pense tout particulièrement au dialogue des chapitres 87 à 89, qui inverse les rôles initiaux d'Adeline et Crevel, ou bien je pense à la parodie que propose Valérie au chapitre 90, des tirades larmoyantes d'Adeline, parodie qui montre par le menu, c'est une belle citation de la page 415, « Comment se faire dindonner ?» Donc des citations, des scènes récurrentes, et il faudrait mobiliser l'échelle macroscopique de la comédie humaine pour faire état de cette récurrence. Et enfin, à l'échelle des personnages, une sorte de galerie des glaces, les personnages fonctionnant par couple, façon d'euphémiser leurs mots respectifs, quand même. On peut penser au couple Hulot-Crevel, au couple Hulot-Venceslas, au couple Adeline-Hortense, au couple Valérie-Josépha. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la rhétorique de l'antithèse, chère au roman feuilleton. Même le couple Adeline-Josépha, en un sens, autant de doublets qui sont privilégiés par Balzac lorsqu'il s'agit de déconstruire la mythologie romantique de la passion accablante. Voilà, je crois, ce qu'une intrigue peut faire à une philosophie. Et à une conception, disons, peut-être pas philosophie, mais une conception tragique de la passion. De même que Valérie fait Hulot, vous vous souvenez, comme Valérie fait Crevel, et comme elle se dit prête sur son lit de mort à faire le bon Dieu, eh bien, on pourrait dire que Balzac fait le romantisme dans cette affaire. De là, une forme de cynisme sur laquelle je m'arrêterai dans un troisième temps, considérant La Cousine Bette comme un roman de la liquidation. Vous allez voir, ça n'est pas gai du tout. Ce roman de la liquidation, il explore d'abord... On tourne autour depuis tout à l'heure, à propos de Racine et de Hume. Il explore d'abord une certaine forme d'équivalence entre le vice et la vertu. D'une part, les vices d'un Hulot ou d'un Crevel tiennent désormais lieu d'amour vibrant, et ils sont à cet effet auréolés par Balzac d'un esprit sacrificiel qui pourrait presque nous les rendre attachants. Alors il faudrait en discuter. Page 521. On te parle du véritable amour, ma petite, dit Malaga, de cet amour qui fait qu'on s'enfonce, qu'on enfonce père et mère, qu'on vend femme et enfant, etc. Même chose à propos des stratégies de Valérie, qui sont susceptibles de nous séduire, de nous plaire. Comment ? Par une érotisation de la lecture. Inversement, d'autre part, la vertu d'une Adeline subit une forme de traitement qui la discrédite. Elle ressemble de plus en plus, cette vertu, à une plaie qui accable son homme, enfin qui accable son homme, qui accable sa femme en l'occurrence, dont elle n'arrive pas à se défaire. Je cite une page déterminante à cet égard, la page 418. Monsieur, je me vendrai, donc c'est la vertu qui parle. Monsieur, je me vendrai, je deviendrai s'il le faut une Valérie. Cela vous serait difficile, répondit Crevel. Valérie est le sublime du genre. Ma petite mère, 25 ans de vertu, ça repousse toujours. Comme une maladie, vous voyez là, là, comme une maladie mal soignée. Et votre vertu a bien moisi ici, cher enfant. Donc une maladie, une moisissure. On pourrait suggérer que Balzac met sur le même plan, qui est le plan de l'intensité, pour reprendre votre terme, les passions altruistes et les passions narcissiques. Sur le même plan, celui d'une forme d'intensité, c'est-à-dire comme autant d'actualisation possible, enfin même pas du tout possible, avérée, de notre potentiel affectif. Pour preuve, vous me direz ce que vous en pensez, je ne suis pas complètement convaincu, mais bon, le personnage de Josepha, qui se convertit au bien, au chapitre 104, et qui donc met en facteur commun l'univers de la courtisanerie et celui de la conjugalité vertueuse. Alors bien sûr, on peut y voir un retournement de situation conforme à une certaine idée du moralisme, mais on peut aussi y voir le symptôme d'une équivalence foncièrement amorale, en tout cas d'une contiguïté qui brouille l'opposition, l'étanchéité du vice et de la vertu. Le cynisme de Balzac trouve son expression la plus achevée sans doute dans le dénouement du roman. Alors je vous accorderai, enfin j'accorderai à votre bienséance que Valérie finit mal, comme Madame de Merteuil. La pauvre créature était jolie et bien punie par où elle a péché, car elle est aujourd'hui d'une ignoble laideur. Et bête elle-même est défaite. Mais il me semble que trois éléments méritent de compliquer cette interprétation morale et de voir le dénouement comme le triomphe de la moralité. Premièrement, vous m'accorderez que elle paraît, cette fin, le fruit d'un geste complètement arbitraire du romancier. Il faut accorder toute sa part à l'invraisemblance du dénouement, c'est-à-dire la rencontre magique entre deux deus ex machina, à savoir la tante de Vautrin, Madame de Saint-Estève, et le Brésilien que vous savez. Donc la rencontre inattendue et largement parodique entre deux grands sauvages qui explique le succès final de Victorin Hulot. L'invraisemblance prévaut. On peut essayer de le montrer même. Il faut essayer de le montrer, sans doute. Et on doit comprendre cette invraisemblance comme une sortie en dehors du champ de la moralité, en tant que la moralité se doit d'être présentée comme cohérente avec le reste du roman. D'autre part, il reste quand même très difficile d'apprécier la figure du vengeur, c'est-à-dire d'adhérer à la position morale de Victorin. Balzac travaille à ne pas susciter de sympathie pour le personnage, par des procédés, là encore, qu'on peut étudier de près. Comment ne pas faire qu'un lecteur adhère ? Pour les lecteurs que vous êtes de La peau de chagrin ou du chef-d'œuvre inconnu ou de La recherche de l'absolu, vous savez bien que Balzac n'explore que très rarement un éloge de la modération, un éloge du pragmatisme, un éloge du bon sens, et que les figures de l'excès, aux antipodes de ce pauvre Victorin, ces figures de l'excès, même et surtout lorsqu'elles sont ravagées, même et surtout lorsqu'elles sont ravageuses, emportent en quelque sorte le crédit du narrateur et du lecteur. Enfin, dernier argument, eh bien, le baron Hulot court toujours. Toute la fin du roman épouse cette extraordinaire fuite en avant du libertin que rien n'arrête, ni la lucidité, car il est lucide, ni le remords, car il éprouve du remords. Il faut prendre la mesure de cette fuite en avant, de cet inachèvement du roman, ponctué, comme vous le savez, par le mariage entre le baron et sa cuisinière, Agathe Pictard, par-delà l'approbation ou la désapprobation narratoriale. Balzac manifestant ici, dans cette ininterruption, l'impossibilité de conclure dans des termes axiologiques. Alors, le temps presse, cette forme de cynisme tient, et j'achèverai cette présentation là-dessus, à un diagnostic majeur qui n'est peut-être pas partagé par les autres auteurs au programme, bien que il tient en un mot, c'est l'historicisation des passions. C'est en historien que Balzac explique la prévalence des passions représentées et des passions représentées comme conquérantes. Alors j'indique tout de suite que ce diagnostic, ou plutôt les conséquences qu'en manifeste l'intrigue, n'est absolument pas limpide, mais précisément, les brouillages qui sont à l'œuvre dans La Cousine Bette semblent découler d'une seule et même hypothèse, partagée à peu ou prou par tous au XIXe siècle. Cette hypothèse, on pourrait l'appeler la crise du modèle paternelle ou la crise de la virilité. Voilà. Et c'est une crise qui remonte, comme vous le savez, à la décapitation de Louis XVI et la Révolution française, une crise réactivée dans l'imaginaire collectif par la défection de Napoléon Ier et par la fin de l'Empire, qui constitue une réplique sismique de cet ébranlement, un deuxième coup de semonce en tout cas. La fin de la Restauration et la Révolution de 1830 consacrant la montée en grade de ce que Balzac appelle la médiocratie dans les paysans, c'était le titre du chapitre 11 des paysans, et le roman, notre roman, porte nécessairement la trace. C'est sa responsabilité et sa chance historique qui porte la trace des mutations de la masculinité pour le meilleur et pour le pire. Citation alors importante, quoique un peu cachée dans l'œuvre, page 87, Madame Hulot faisait remonter les premières infidélités de son Hector au grand final de l'Empire. Page 87. De telle sorte que, en sismographe de son temps, et donc pas du tout en moraliste, je caricature à grands traits, Balzac décrirait par le menu le nouvel art d'aimer, ce qu'il appelle, ce sont des citations de la page 174-175, les façons de l'amour moderne, la comédie du sentiment moderne, autre citation. Alors quand je dis le décrirai, le verbe décrire n'est peut-être et sans doute pas le bon, car c'est là un geste de révélation qui permet au romancier d'explorer la nouvelle offre sociale, la lutte individuelle pour la reconnaissance et les possibilités offertes à tout un chacun d'assouvir sa libido. Alors tout un chacun, c'est qui ? Sinon le père avec un grand P. Alors ce sont trois personnages, ou trois rôles dans La Cousine Bette. D'abord les rivaux, la rivalité, enfin possible. Les rivaux, mais les rivaux de Hulot par exemple, même et surtout lorsqu'il s'agit de parvenus comme Crevel. Deuxièmement, les femmes. Nicole Moset a fait de La Cousine Bette le roman du pouvoir féminin. Les femmes, même et surtout lorsqu'il s'agit de comédiennes consommées comme Valérie. Et enfin, le peuple. La Cousine Bette est à la fois une figure de ce pouvoir féminin et une figure provinciale du prolétariat qui vient. Le peuple qui demande sa part du gâteau, lui aussi. Cette part du gâteau, jusqu'alors, je caricature, indiscutée. On a là trois catégories d'envieux, d'insatisfaits, trois catégories d'ailleurs poreuses, hein, puisqu'elles ne sont pas situées sur le même plan, qu'il faudrait, mais je n'en parle pas, car c'est hors sujet en un sens, articulé à la défaillance d'un quatrième pôle qui est le pôle de la création artistique. C'est le sculpteur Steinbock qui n'est plus capable que, dixit Nicole Moset, de produire des œuvres féminines, féminisées. Etc., etc. Aucun universel dans cette affaire, aucun jugement de valeur non plus, mais quelque chose comme une nouvelle économie des passions, et j'emploie le terme économie pour dire à quel point je regrette de n'avoir pas eu le temps d'évoquer la place nouvelle accordée à l'argent dans l'affaire, une nouvelle donc économie des passions sur laquelle qui carbure à l'insatisfaction, sur laquelle je m'arrête un peu brusquement. Merci de votre présence. Alors, j'ai évidemment pas de réponse. Balzac invente quelque chose comme. Enfin, invente. Si tant est que le roman soit original dans le champ littéraire de son temps, mais il investit une place un peu intermédiaire entre le sublime de la passion et l'ironie. Un peu grimaçante que suscitent les sentiments outrés. Alors on est quelque part entre les deux et je suis convaincu qu'en fait il ne faut pas choisir entre l'une ou l'autre interprétation. C'est cette frontière instable entre les deux qui est également la frontière instable entre le vice et la vertu, hein.